Est-ce que vous pouvez me rappeler ce qu'on a fait la dernière fois? Qu'est-ce qu'on a vu?
Les
dons et les vertus. Alors, quelle est la différence? C'est quoi une vertu? C'est quoi un don? Comment est-ce qu'on acquiert une vertu? Comment on fait pour avoir une vertu? Oula là. Virtus, ça veut dire quoi? La vertu, ça veut dire quoi? Force, capacité de faire quelque chose. En français, qu'est-ce que ça a donné comme mot? Ça a donné peut-être virtuose. Quelqu'un qui sait très bien jouer du piano ou du genre. C'est un virtuose. Pourquoi? Il a la vertu, il a la facilité de faire les choses. C'est incroyable. Il joue, il regarde même pas la partition. Vous voyez? La vertu, c'est ce qui va nous rendre aussi des virtuoses. On a la capacité de faire quelque chose mieux. Les yeux fermés. Trop facile. Pourquoi est-ce que c'est trop facile? Comment j'ai fait pour en arriver là? Tadam! On se réveille pas le matin en disant, ah, donnez-moi vite, vite, vite un violon, un piano. Ça y est là, il faut que je compose, il faut que je joue. Je remplis la salle payée. Vite, vite, c'est ce matin quoi. Comment on fait pour avoir cette capacité à être un grand pianiste, grand violoniste, ou un homme qui fait le bien, qui pense tout le temps aux autres, qui rend service?
Oui.
On s'entraîne souvent. La vertu, ça s'acquiert parce que c'est une habitude, ou un habitus, on dira. Une habitude, et une habitude, ça s'acquiert parce qu'on répète les actes. Je veux dire, c'est le premier pas qui coûte. Après, le deuxième est plus facile, le troisième, puis le 25e pas, mais c'est. Voilà. C'est très facile. Pourquoi? Parce que je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Donc, la vertu, c'est quelque chose que l'on va acquérir parce qu'on répète le même acte. J'obéis. C'est dur, hein, d'obéir. Au bout de 200 fois, c'est bon. D'accord? Allez, je fais un effort, je suis volontaire. Au début, c'est dur. Après, bon, bah voilà, on sait que. Je me lève le matin, ah, c'est dur. Après, c'est bon, on a l'habitude. C'est parfait, c'est pris. Il y a une deuxième façon pour acquérir une vertu. On peut tricher, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'on va demander à Dieu de nous le donner. Dieu, il peut nous donner la capacité de faire quelque chose. Dieu, il a les leviers intérieurs. Je ne sais pas si je vous avais dit, un des derniers miraculés qu'il y a eu à Lourdes, c'était quelqu'un qui était tombé au clochard, dans la rue, etc., alcoolique au dernier degré. Il allait prier à la grotte, il est ressorti, buvait de l'eau. Il n'a pas eu à lutter contre l'alcoolisme. Il a été, ce qu'on appelle, sevré, c'est-à-dire plus du tout dépendant de l'alcool, parce qu'il a prié, il a demandé. Alors nous, on dira, c'est un miracle. Parce que pour passer d'un extrême à l'autre, il faut une intervention de Dieu. Oui. Mais le miracle, il existe aussi à chaque fois qu'on prie et qu'on est exaucé. Hein. Après, c'est peut-être pas à cette échelle-là, c'est peut-être aussi gros que ça. Mais voilà, je peux demander à Dieu, Seigneur, rendez-moi obéissant. Aidez-moi à ceci, aidez-moi à cela. D'accord? Alors on peut aussi dire, aidez-moi à faire du violon. Hein. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'aller au ciel. Donc ce qui va nous être demandé pour rentrer au ciel, c'est pas si on sait jouer la cinquième symphonie, c'est si on a fait le bien. Voilà. Si on a eu un cœur bon. Pour avoir un cœur bon, pour faire des bonnes choses, ben on peut travailler sur soi, et puis on peut aussi demander à Dieu. Il y a trois vertus qu'on ne peut pas acquérir en travaillant par soi-même. C'est lesquelles? Oui.
Foi, espérance, charité.
Trois vertus théologales qui nous mettent directement en lien avec Dieu et qui viennent directement de Dieu. Là, je dis, c'est pas parce que j'ai lu 3 mètres de livres, de rayons de bibliothèque, de catéchisme, que j'ai la foi. Non, j'ai la connaissance, j'ai pas la foi. Je n'adhère pas à Dieu, j'ai pas de lien avec Dieu. Je sais ce que l'Église dit. C'est tout. Foi, espérance, charité, ça se demande, ça s'obtient, c'est donné par Dieu, c'est donné par Dieu déjà au baptême. On ne peut pas l'acquérir par nous-mêmes. Ça, c'est les vertus. Les dons. Qu'est-ce que c'est que les dons? Comment est-ce qu'on acquiert un don? Vous avez entendu, un don du Saint-Esprit. Hein. Mais bon, il y a d'autres dons, mais au sens large. Mais... Voilà, les dons, ils sont donnés à un don. Au baptême et à la confirmation. Pour les dons du Saint-Esprit. D'accord? Je ne peux pas les avoir par moi-même. C'est Dieu qui donne, c'est un don. À quoi ça sert un don? À quoi ça sert une vertu et à quoi ça sert un don? vous vous souvenez de ce que j'avais dit, le don, c'est... Oui, exactement. Ça renforce les vertus et ça les renforce un peu ou beaucoup ? Beaucoup. Rappelez-vous, c'est la potion magique. D'accord ? Astérix et Obélix, d'abord, ils auraient été capables de casser la tête à un Romain sans potion magique. Il faut apprendre d'abord à se battre, commander un coup de poing, etc. Très important. Et puis après, quand il faut être seul contre 200, allez, un petit coup de potion magique, ça ira mieux. Eh bien, c'est la même chose. Les vertus, c'est ce que je demande à Dieu, c'est ce que j'acquiers au quotidien. Parce qu'il faut, au quotidien, avoir des petites victoires sur les tentations, sur l'opinion, ah, fais ci, fais ça, les mauvais conseils, et puis sur soi-même, oh, j'ai pas envie. Ça, c'est des petits combats au quotidien, des petites victoires. Le don du Saint-Esprit, il est là pour renforcer la vertu quand la vertu ne suffit pas. Parce que ce qu'on me demande, mais c'est beaucoup plus que ce que j'ai l'habitude de faire. On me demande quelque chose d'héroïque. Je suis pas un héros, moi. Je suis un chrétien normal. Donc, qu'est-ce que je fais ? Potion magique. Seigneur, là, c'est à vous d'agir, parce que moi, je peux pas. Et très honnêtement, c'est au-dessus de mes forces. Et comme notre âme, elle est préparée à recevoir ou à utiliser les dons du Saint-Esprit, on a reçu les sacrements qu'on fait la piste d'atterrissage, qu'on fait le gant dans lequel la main de Dieu va pouvoir se glisser. Le gant est là, c'est bon, il n'a plus qu'à faire. Et je lui demande d'agir. Et le don, effectivement, est là pour faire des choses qui sont héroïques, c'est-à-dire absolues. Au-delà de la normale. On va voir aujourd'hui les dons un à un et avec des petites illustrations. Et peut-être que ça vous fera comprendre les choses. Mais ce que je veux vous faire comprendre aussi et rappeler aujourd'hui, c'est que vous verrez, quand je vais vous illustrer un don avec tiens, une petite histoire ou je ne sais pas quoi, vous allez voir que c'est très ponctuel. Je ne vais pas vous dire Saint Jean Bosco, toute sa vie il a fait ça, c'était le don d'eux. Non. Je vais vous dire un jour. Saint Jean Bosco, il a fait ça. Et ça, on voit que ça, c'est flagrant. Ça dépasse, si on peut dire, les capacités normales de quelqu'un. Et puis, voilà, c'est très ponctuel. À telle occasion, il y a eu ça. Voilà. Alors l'occasion, elle peut se répéter. Hein. Ça peut être une situation dans laquelle la personne est aidée régulièrement, mais c'est pas forcément quelque chose qui dure toute la vie. C'est pour des petits actes ponctuels. Qu'on a cette aide. Deuxième chose qu'il faut comprendre, quelle est la différence entre le baptême et la confirmation ?
Le baptême, on a fait une vidéo, on
commence
à être chrétien. Oui. Et la confirmation, on renforce le baptême.
Pour ? C'est quoi la direction de la confirmation ?
Pour aller vers les autres.
Pour aller vers les autres, d'accord ? Le baptême, Dieu se donne à moi, il vient dans mon cœur, il va commencer à travailler mon cœur pour le décabosser un peu, le rendre un peu plus droit. Et puis, c'est juste, mais c'est déjà pas mal, pour ma sainteté personnelle. C'est déjà bien. Après, il y a des fois où il faut avoir une action par rapport aux autres, il faut témoigner par rapport aux autres. On n'est pas seul sur terre, il y en a d'autres qui posent des questions, il y en a qui nous embêtent, il y en a qui ceci, cela. Voilà. Ben ça, c'est effectivement le sacrement de confirmation qui vient renforcer la sainteté personnelle ou l'état d'être chrétien en vue de témoigner par rapport aux autres. Donc quand on va voir les sept dons, tout de suite là sur la première page, vous voyez, il y a un tableau où je vous ai mis de façon verticale les dons, sagesse, intelligence, conseil, force, science, crainte et piété, et puis de façon horizontale, j'ai mis sacrement, baptême, confirmation. C'est-à-dire les sept dons du Saint-Esprit sont aussi donnés au baptême, en vue de la sainteté personnelle. Ils sont redonnés, redéployés, débrider à la confirmation pour agir entre guillemets plus fortement dans le but d'avoir une action vers les autres. Non, ça ressemble à ça. C'est bon. Donc ça ressemble à ça. Donc vous voyez dans le tableau. Don de sagesse, par exemple. Je vais juste lire le tableau, après on va voir les dons un à un, et puis quand après vous retournerez au tableau, vous comprendrez mieux ce que ça veut dire. Don de sagesse, au baptême, goûter Dieu et s'abandonner à lui, quoi qu'il m'en coûte. C'est pour moi, connaître Dieu. À la confirmation, répandre le règne de Dieu autour de soi, et puis avoir un lien approfondi avec l'Église. L'Église, c'est les autres chrétiens, je ne suis pas tout seul. Confirmation. Intelligence. au baptême, compréhension naturelle des mystères de Dieu, don du Saint-Esprit qui m'aide à comprendre ce qui est dur en catéchisme. Confirmation, défendre la foi par la parole de Dieu. Défendre, il y a quelqu'un en face de moi. D'accord ? Conseil, au baptême, ingéniosité pour prendre les bonnes décisions au bon moment, en vue d'aller au ciel, pour être saint. Confirmation, défendre la foi par des actions judicieuses. D'accord ? C'est plus la parole, c'est des actes. Là, c'est le conseil. La force, persévérance et fidélité dans la vie quotidienne, au baptême, et à la confirmation, braver le respect humain pour affirmer et défendre sa foi. Le respect humain, on pourrait dire, c'est la peur de l'autre. Non, non, je ne veux pas le dire, oh, ben non, je vais passer pour une gourde, ah ben non, là on va se moquer de moi, ah ben, voilà. C'est pas le respect de l'autre, hein, c'est la crainte de l'autre. Ouais, j'ose pas. Ben, la confirmation, allez, en avant. D'accord ? Rappelez-vous, c'est comme le bateau avec les voiles. Hop là, un petit coup devant, ça va toujours mieux. La science, au baptême, voir la vanité de toutes les créatures et voir Dieu dans tous les événements. Se rendre compte, hein, que ben voilà, le monde c'est bien, Dieu c'est mieux. Mettre la priorité à Dieu et comprendre l'action de Dieu dans nos vies. Confirmation, direction spirituelle des âmes, soutien de la vocation spirituelle d'autrui. Je comprends plus ce que fait Dieu dans la nature, dans le monde et en moi, enfin, en ce qui me concerne, je comprends ce qui se passe chez l'autre. Et lui dit, ah non, t'as mon grand, faut que tu rentres au monastère et ça fait pas un pli. Hein, j'ai dit, ah ben non, il n'avait pas hésité. D'accord ? Capacité de résoudre la fine question de la vie des autres, alors que c'est pas notre vie, quoi. C'est-à-dire qu'on a a priori moins d'éléments que l'autre. Mais voilà, on a des petites aides qui font que toc, 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 on repère des choses, on voit des choses et on comprend des choses peut-être plus que la personne elle-même. Baptême, alors la crainte. Crainte de peiner Dieu par le péché, confirmation, crainte de manquer de courage pour témoigner de sa foi. C'est pas par rapport à moi, par rapport aux autres, toujours pareil. Et piété, délicatesse des rapports humains et profonde confiance en Dieu, à la confirmation, grâce particulière pour toucher les cœurs, pour les autres. Voilà. C'est plus moi qui dois avoir confiance en Dieu, c'est les autres. Donc voilà, ça c'est un petit tableau qui pourra autour vous rappeler les choses, vous servir, tout comme la prière qu'on a dit là au début, pour demander les sept dons, et à chaque fois vient l'esprit de science, une petite phrase qui vient un peu nous rappeler avec d'autres mots ce que ça fait. Alors maintenant nous allons voir les dons, enfin, les sept dons du Saint-Esprit, dans un ordre qui n'est pas forcément celui que vous apprendrez par cœur, mais on va voir d'abord ceux qui agissent sur notre intelligence, et puis ensuite ceux qui agissent plutôt sur notre volonté. Qu'est-ce qu'il faut comprendre et qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que normalement, il faut réfléchir avant d'agir. Donc il faut, voilà, on va commencer par l'intelligence et après on viendra à la volonté. Quels sont les dons du Saint-Esprit qui nous aident de façon ponctuelle à comprendre des choses hyper difficiles, héroïques, qui dépassent la normale, petit coup de potion magique, au niveau de notre intelligence. Il faut piger quelque chose. C'est quoi ? Intelligence, sagesse, science, conseil. Il y en a d'autres, c'est pareil. C'est ponctuel, c'est héroïque, j'ai besoin d'un coup de pouce, c'est pas pour comprendre, c'est juste pour avoir le courage de le faire. Crainte, piété, force. L'intelligence, commençons. On n'arrête pas de commencer aujourd'hui, c'est merveilleux. L'intelligence, intelligere, en latin, ça veut dire comprendre. Intelligo, j'ai compris, je comprends, ça y est. Intelligence, ça veut pas forcément dire gros cerveau, hein. Ça veut dire top, petit tilt. Ça y est, j'ai compris. Donc, don d'intelligence, il s'agit de comprendre les réalités de la foi, ce qui concerne Dieu. C'est pas de l'intelligence pour les mathématiques. Pour cela, il y a déjà la vertu théologale infuse de foi, qui nous permet de poser des actes de foi. Le don d'intelligence vient la perfectionner, la renforcer, donner de la facilité de comprendre le contenu de la foi, c'est le baptême, et de l'expliquer aux autres. C'est la confirmation. Avec toujours cette idée que si le don intervient pour perfectionner la vertu, c'est que c'est plus dur, ce qui est à comprendre ou à expliquer, est plus dur que le niveau habituel. Voilà. C'est particulièrement dur. Toc, on a droit à un petit coup de potion magique. Illustration. Et c'est souvent des exemples qu'on comprend. Jésus, âgé de 12 ans, répond aux scribes et aux docteurs de la loi dans le temple à l'occasion du pèlerinage de la Pâque. Jésus a 12 ans, Il a les dons du Saint-Esprit. On a dit que ça, le don du Saint-Esprit reposait en plénitude sur le Messie. C'est lui le Messie. Hein. À 12 ans, il colle dans la capitale, Jérusalem, au temple. C'est le haut lieu de la religion. Hein. Il n'y a pas plus central. Les profs de cathé. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dira, je sais pas, il va à l'université à Paris, et puis il est en train de mettre tous les profs minables, quoi. Les gens, ils écrivent des bouquins incompréhensibles et qui font 800 pages. Et puis Jésus, il vous balaye ça, voilà. Et dans le récit, hein, on dit que les docteurs de la loi, les scribes, ceux qui savent écrire, les savants, interrogeaient Jésus. C'est pas pour lui poser des questions et vérifier qu'il sait. C'est comme l'élève pose la question au maître. J'ai pas compris un truc. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Voilà. Et dans les cours de catéchisme faits par les juifs, c'est pas le professeur qui pose les questions, c'est l'élève. C'est lui qui demande ce qu'il faut lui expliquer. Moi, je vous explique, et après je vérifie, je pose des questions pour savoir est-ce que quelqu'un a retenu ce qui s'est passé, ce qu'on a dit, qu'est-ce qui reste. Mais oui, donc, non seulement il colle tout le monde, et puis les gens lui posent des questions pour comprendre. Ils étaient étonnés de sa capacité à comprendre les Écritures et à expliquer le béaba, quoi. C'est ponctuel, c'est au-dessus de la normale. C'est pas l'examen que passe tout enfant juif à 12 ans, effectivement, normalement il y a la profession de foi, si on peut dire, des juifs, où ils passent un examen de cathé. Là, c'est pas tous les docteurs de la loi qui s'acharnent sur le pauvre petit israélite en train de passer son interro. Hein. Là, il les a tous. Il les colle. Dans l'intelligence. D'accord ? Un peu plus dur, au-dessus de la normale, ponctuelle, vers les autres. Ça, dans l'intelligence. Autre exemple. Sainte Catherine d'Alexandrie, qui, du haut de ses 14 ans, est répandue aux plus grands savants et philosophes de son époque. Elle leur cloua le bec à tous et subit pour cela le martyr. Elle est maintenant la patronne des philosophes. Parce que Alexandrie, c'était la ville universitaire de l'Antiquité. Vous entendrez parler qu'il y a eu l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, qu'on a perdu énormément de livres de l'Antiquité. Voilà. C'était la ville universitaire. Sainte Catherine d'Alexandrie, chrétienne, 14 ans, pareil. Ah, t'es chrétienne, comment ça se fait, Dieu n'existe pas, ceci et cela, et machin, tout ça, c'est des ragots. 14 ans. Et pareil, elle a mis à l'amende tous les plus grands savants de son époque. Ils étaient un petit peu fâchés, ils l'ont tué. Voilà. Ça, vous voyez, ça dépasse le normal. Saint Thomas d'Aquin, encore un autre. Qui, enfant, demande au moine chez qui il est à l'école, c'est quoi Dieu ? Il répondra à sa propre question durant toute sa vie, parce qu'il a été professeur de théologie à l'université, et notamment à Paris, et en rédigeant des livres de théologie, qu'on appelle la somme théologique. Le somme, c'est la compilation, si on peut dire, de théologie. Un jour qu'il était à Paris, il fut invité à la table du roi, qui était Saint-Louis. Il y a quand même deux saints qui ont déjeuné ensemble. En plein milieu du repas, alors c'est la table du roi hein, quand même, il s'écrit « Mais oui, c'est l'argument !» Il se fait apporter un parchemin, une plume et de l'encre, et il rédigea la réponse à une question difficile, en plein milieu du repas, le parchemin trempant dans son assiette. C'est-à-dire que, voilà, il y a un moment où, tac, ça y est, il y avait une question qui le taraudait, il ne savait pas comment répondre à telle personne qui critiquait ou je ne sais pas quoi, en plein milieu du repas. Ah, c'est ça, allez vite, tout de suite. C'est ponctuel et c'est pour des choses très compliquées. Voilà. Bon, après, ils ont peut-être quand même réussi à prendre le dessert. Mais n'empêche, vous voyez, c'est ça. Jamais. et d'un autre côté, pour beaucoup de questions comme ça, hein, Saint Thomas d'Aquin, ce qu'il faisait, il mettait la tête dans le tabernacle. Quand il ne comprenait pas, il ouvrait le tabernacle, il mettait la tête, il dit « Bon, Jésus, vous pouvez me faire rentrer la réponse dans la tête, c'est rien mieux. » Donc, bon, ça fait un peu bizarre quand on voit un moine la tête dans le tabernacle, on rentre à chacun, c'est Thomas d'Aquin, tout va bien. Pas faire attention, c'est normal. Mais en tout cas, voilà, il avait conscience que pour beaucoup de choses, c'est Dieu qui donne. Et puis, ben voilà, il y a des moments où, honnêtement, personne n'a trouvé la réponse. Toc. D'accord ? Dans l'intelligence. Il y en a d'autres, hein, Saint-Augustin, pareil, il y a au moins une question à laquelle il a répondu et qu'il a, gêné des années durant. Et puis, tac, ça y est. Ben, depuis qu'il a donné sa réponse, on n'a honnêtement pas fait mieux. Donc aujourd'hui, quand il va à telle question, la réponse est au 5e siècle. Depuis Saint-Augustin, personne n'a réussi à expliquer mieux que lui. Voilà. Donc ça a mis du temps à germer. Mais il y a bien un moment où ça lui a été donné. Hein, il y en a d'autres, ils cherchent toute leur vie, ils meurent, ils n'ont toujours pas la réponse. Donc voilà, pouf. Don particulier pour les choses particulièrement difficiles. Sagesse. Sapere, en latin, ça veut dire goûter. Donc voilà, la sagesse, c'est goûter. En tout cas, quand on l'utilise là en religion. Il ne s'agit plus de connaître intellectuellement les réalités divines, mais de les savourer, d'en profiter. Tout ça dans sa tête. Dire, ah, qu'est-ce que c'est bien, ah, mais qu'est-ce que c'est beau. La vertu à laquelle ce nom se rattache est la vertu d'espérance. Les actes d'espérance nous font anticiper la joie du ciel. Un saint est parfait en ce qui concerne le divin, non seulement parce qu'il l'a appris, même compris, mais parce qu'il l'a éprouvé, ça c'est le baptême, et qu'il donne envie de devenir comme lui et d'être imité. Ça c'est la confirmation. Illustration. Jésus passait des nuits entières en prière, havre de paix et de réconfort pour lui. Et puis le lendemain, il repartait en prédication. Ça, grosso modo, il n'avait pas dormi. Mais voilà, ce petit coup de potion magique pour rester en Dieu, goûter Dieu, et puis repartir le lendemain comme si de rien n'était, normalement, quelqu'un qui ne dort pas, au bout de 2 jours, 3 jours, 4 jours, il est laminé, il faut le porter, il ne sait plus quoi dire. Voilà. Jésus, pas de problème. Donc, voilà, petite aide. Sainte Thérèse d'Avila, donc qui a fondé des couvents de carmélites, qui à la fois a été ravie en extase et qui a fondé 17 couvents en 15 années. C'est-à-dire qu'en moyenne, plus de 1 par an. C'est-à-dire qu'elle a pas mal voyagé et travaillé. Hein, tout en encourageant Saint Jean de la Croix à faire la même chose de son côté. Déconsidérée par une partie du couvent, parce qu'elle voulait une vie plus religieuse et moins bavarde dans son couvent, Dieu lui donna une extase qui l'a fait se tenir entre ciel et terre en plein milieu du déjeuner au réfectoire. Toujours agréable. Elle a passé une bonne partie de sa vie en carrosse, sur les routes, en plein soleil, afin de fonder les couvents de carmélite, des strictes observances. Elle disait à ses sœurs, l'ayant expérimenté elle-même, c'est ça qui m'intéresse, « Quand vous ne pouvez pas aller devant le tabernacle, retirez-vous au plus profond de votre cœur, car Dieu s'y trouve. » Voilà. Elle avait fait cette expérience. Voilà. Et de façon un peu extraordinaire. Hein. Avoir une extase, c'est pas simplement être bien dans la prière. C'est vraiment goûter Dieu, être en lien avec Dieu, puis déjà être au paradis, quoi. Mais, voilà. Et quand les gens ont une extase comme ça, alors parfois, effectivement, il y a des phénomènes un peu physiques, on a l'impression qu'ils sont plus sur terre. On a essayé par exemple avec Sainte Bernadette à Lourdes, quand elle voyait la Sainte Vierge, elle avait un regard fixe, et puis on a l'impression qu'on avait beau lui dire des choses, elle n'entendait plus. On a fait le test, on lui a mis Sainte Vierge sous la main, on a essayé de la brûler, quoi, comme si on passait un briquet pour que ça fasse mal. Elle a pas bougé, quoi. On avait dit, ouh, ça va, t'es avec nous? Ah non, pas du tout, non. Alors Sainte Thérèse d'Avila, elle était au-dessus du sol. C'était vers Dieu, quoi. Voilà. Alors au milieu du réfectoire, pour que tout le monde voit que celle qui cassait les pieds parce qu'elle voulait qu'on discute moins dans les couvents, qu'on reçoive moins de personnel là, venez prendre le thé au couvent, ce qui se faisait à son époque. Les religieuses avaient même des domestiques pour faire leur lit, pour voilà. Tranquille, hein, la vie religieuse. Donc elle a dit, attends, vous rigolez, c'est pas ça. Donc forcément, elle s'est fait des ennemis, et Dieu il a fait exprès de donner un signe au premier de réfectoire pour que tout le monde voit que celle qui leur cassait les pieds, elle était du côté de Dieu. Ah non, Dieu était d'accord. Ça, il trouvait ça très bien. Qu'on arrête d'avoir des domestiques dans les couvents. Donc voilà. Petites occasions qui dépassent le normal d'avoir une extase, c'est un don. C'est le don de goûter Dieu. Comprendre, enfin voilà, pas simplement comprendre, mais voilà. Posséder Dieu. Et puis après, c'est moi pour en témoigner. En disant, mais Dieu, il est au fond de votre cœur. Voilà. Et je vous dis, elle a passé sa vie sur les routes. Donc elle, qui a fait des couvents en disant, il faut plus d'adoration du Saint-Sacrement, parce que grosso modo, c'est ça les carmélites. Les carmélites, elles passent deux fois plus de temps en prière que les autres religieuses. Allez, plus de temps à la chapelle, plus prier. Elle n'était jamais dans une chapelle. Elle a passé son temps à fonder des trucs, à retrouver des novices, à trouver de l'argent, à aller voir quelqu'un pour savoir si on ne pouvait pas prêter ou donner un bout de champ pour construire un couvent, aller voir les carrosses, le truc. Enfin, 17 couvents en 15 ans. Il faut y aller, hein. Donc jamais dans une chapelle, ou très rarement, et pourtant, voilà, goûtant Dieu, ayant compris que Dieu est au fond de notre cœur depuis le baptême. Si on est en état de grâce, de sainteté, Dieu là. Hein. Et elle l'avait voilà, éprouvé et capable de le dire aux autres. Sainte Germaine de Pibrac, encore une petite sainte que j'aime beaucoup, petite bergère du sud-ouest, qui disait à son curé qu'elle n'arrivait pas à dire son chapelet, alors que le curé la voyait tous les matins à la messe, quoi. On s'est dit, C'est un peu bizarre pour quelqu'un qui vient à la messe tous les jours et qui ne sait pas dire le chapelet. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, bon, montre-moi, comment tu fais pour dire le chapelet? Alors il dit, bah, je fais le signe de croix, voilà. J'y vais, je crois en Dieu, très bien. Et puis après, j'essaye et je dis, notre Père, puis je trouve ça tellement beau que j'arrive pas à dire la suite. Bah, il dit, bah, c'est bien, continue tes efforts. Il dit, mais c'est bon, quoi. Elle, elle est déjà aussi, elle a dit, notre Père, ça y est, elle a compris qui était Dieu. Nous, pour faire des efforts, etc., pour essayer, ça y est, enfin, d'être vraiment en cœur à cœur avec Dieu. Elle, allez, deux mots, et puis, elle avait déjà compris. Elle était déjà plus sur terre, oui. Ça, c'est, pareil, petite illustration. Le don de science. Chire en latin, qui est de la science, SC, hein, veut dire savoir. Il s'agit de savoir la vraie valeur des choses créées, humaines et matérielles, c'est-à-dire de voir leur juste rapport avec Dieu. On peut le distinguer de sa propre vie, dans sa propre vie, c'est le baptême, ou dans la vie des autres, en leur donnant de bons conseils, la confirmation. Ce don est souvent rattaché à la vertu de tempérance, mais la tempérance étant tournée vers l'action, c'est-à-dire l'usage des choses, donc faisant usage de la volonté, la science vers la connaissance, donc faisant usage de la raison, sinon peut être considéré comme perfectionnant lui aussi la vertu de foi. Pourquoi je vous ai dit tout ça? Parce qu'à la fin vous avez un petit tableau, avant-dernière page, et puis du coup ça correspond à ce que j'ai mis dans le petit tableau. Et puis bah, forcément ce que dit saint Thomas d'Aquin et les autres là, pour expliquer un petit peu les choses. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est pas pour compliquer les affaires, c'est pour qu'on essaie de se faire une idée juste des choses. Si ça se rattache à la tempérance, ça veut dire quoi être tempérant? Être tempérant, c'est faire un juste usage des choses, être équilibré, on pourrait dire. Voilà. Quelqu'un qui est tempérant, dans son caractère, c'est quelqu'un qui ne se met pas en colère pour rien. C'est quelqu'un qui se fâche quand il faut se fâcher. C'est quelqu'un qui ne pleure pas pour rien, il pleure quand il faut pleurer. Mais c'est pas des litres d'eau pour une bricole, quoi. Quelqu'un qui est tempérant dans la nourriture, l'alcool, etc. C'est quelqu'un qui boit un verre de vin quand il faut, un verre de whisky pour fêter je sais pas quoi, et puis c'est tout. Voilà. C'est pas quelqu'un qui farfouille dès qu'il peut. Vous voyez, c'est la tempérance, c'est ça, c'est un peu l'équilibre. Savoir, la science, ça va être ça, ça va être quelque chose, c'est un don qui va permettre, on va dire, de relativiser les choses ou de les mettre à leur vraie valeur. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important? Comment est-ce que je dois user des choses de ce monde pour aller au ciel? Comment est-ce que je dois ne pas en user? Saint Ignace de Loyola, il dit dans ce qu'on appelle les exercices spirituels, il y a un conseil, enfin, qui s'appelle même principe et fondement, c'est-à-dire paragraphe numéro 1 et puis base de toute la vie. L'homme est fait pour louer, aimer, servir Dieu, être saint. Le reste des choses sont faites pour lui permettre d'aller à ce but. Donc, il doit les utiliser dans la mesure où ça le rapproche du but d'être saint, et il doit s'en abstenir, s'en éloigner, dans la mesure où ça l'éloigne. Il dit pas, il faut pas boire, faut pas fumer, il faut pas faire la fête. Il dit, vous pouvez, dans la mesure où ça vous rapproche de Dieu, très bien, dans la mesure où vous dites non. Là, c'est pas des bons amis. Non, non, là, ça va déraper, c'est pas bien. Non, mais là, on va dire du mal. Non, mais là, on va faire des bêtises. Non, mais là, voilà. Je sais qu'avec lui, de toute façon, il va nous amener casser un truc, il va mettre des pétards dans les boîtes aux lettres, enfin, je sais pas quoi. J'y vais pas. Je sais que c'est pas bon. Par contre, je peux effectivement aller avec des amis, faire des choses drôles, bien, aucun problème. Non. Je sais qu'avec telle personne, on va se déguiser. Je sais qu'avec telle personne, on va casser les boîtes aux lettres. Voilà. On dit pas qu'il ne faut pas s'amuser, on dit qu'il faut juste s'amuser en faisant le bien. Voilà, ça existe, c'est possible. Le don de science, ça va être un peu dans cet ordre-là, c'est-à-dire aider la personne à connaître de façon particulière telle ou telle chose, alors au baptême pour sa propre sainteté, à la confirmation pour la propre sainteté de l'autre. Dire, attends, Coco, moi j'ai pigé le truc, c'est pas du tout ça qu'il te faut. Non, 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 c'est pas ça, c'est là que tu dois être. D'accord, je le sais, je lui dis simplement. Illustration. Jésus annonce la trahison et le relèvement de Saint-Pierre. Il dit, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié trois fois. Quand tu seras revenu, confirme tes frères. Là, c'est une phrase qui m'a toujours étonné. Et tu vas partir, mais tu vas revenir. Et puis là, Tu sauras ce que c'est que tomber, tu pourras affermir les autres, hein, confirmer les autres. Fortifie-les, pour pas qu'ils se cassent la figure, parce que toi, tu as vu ce que ça donnait. Donc, Jésus, il annonce à Saint-Pierre ce qui va se passer d'une certaine façon, l'avenir, mais l'avenir qui se passe dans son cœur par rapport à Dieu. Tu vas renier, tu vas revenir, tu confirmeras. Saint-Pierre, quand il a lu un temps cette fois, il dit mais non, tu rigoles, Jésus, moi, te trahir, jamais. Si, si, le coq va chanter, tu vas trahir. Intérieurement, Saint-Pierre, il dit c'est ça, ouais. Costaud lourd, moi je me connais, hein, coucou. Je suis fort, costaud, j'ai du caractère, y'a aucun problème. Moi, tes ennemis, j'en fais qu'une bouchée. Voilà. Et effectivement, hein, c'est lui qui va dégainer l'épée au jardin des Oliviers, enfin voilà, hein, il est prêt à défendre Jésus. Pas très longtemps. Jésus lui dit ta trahison, c'est pas grave, tu reviendras. Il lui annonce déjà un petit peu les choses, il le guide dans la vie. Peut-être que si Saint-Pierre n'avait pas eu cette phrase pour le sauver ou je sais pas quoi, il serait désespéré, ou bien comme Judas en allant se prendre, ou bien simplement en disant bah voilà, au revoir, je suis un raté, je retourne en Galilée, vive ma vie pour pêcheur de poissons, et puis terminé, il aurait quitté le groupe apostolique. Ben non. Jésus lui dit voilà, la voie de Dieu, elle passe par là. C'est un exemple. Hein. Autre exemple. Février 1936. On confia une mission au père Finet, qui était du diocèse de Lyon, apporter à tableau à Marthe Robin, une femme de 34 ans, clouée au fond de son lit par la maladie, dans le village de Châteauneuf de Galore, dans la Drôme. A priori, il devait passer par là. Ah bah tiens, si vous allez par là, soyez gentil de donner ça à telle personne. Bon. Il ne connaissait absolument pas Marthe Robin. Sans le connaître, Marthe Robin lui proposa, inspirée, dit-elle, par la Vierge Marie, de fonder sur place le premier foyer de charité. Voilà, elle voit le prêtre et dit hop hop hop, Dieu ce qu'il veut dans votre vie c'est que vous restiez ici et vous fondiez un foyer de charité, c'est-à-dire hein, un peu comme ici, hein, un sanctuaire où les gens vont pouvoir venir pour prier, suivre des retraites, des explications, etc. Et puis avoir une vie commune. Ce qu'il accepta, elle connaissait Marthe Robin, les chemins de Dieu, non seulement pour elle-même mais aussi pour les autres, et elle annoncera à plusieurs personnes leur vocation et ce que Dieu attend d'eux. Voilà. Et elle est morte je ne sais plus exactement, je crois que c'est 1975, quelque chose comme ça. Donc c'est pas, il n'y a pas si longtemps que ça, vous pouvez encore croiser des adultes qui ont connu Marthe Robin. Il y en a qui disent, ah oui, ben nous on était fiancés, on allait voir Marthe Robin et qu'elle nous annonçait ceci ou cela. Voilà. Moi j'ai déjà croisé aussi quelqu'un qui vient d'une famille, en fait c'est pas Marthe Robin, c'est le curé d'Ars. Déjà ça fait deux siècles, hein, deux siècles, qui a dit à leur arrière-grand-mère, dans votre famille il y aura beaucoup de saints et il y aura beaucoup de personnes consacrées à Dieu. Le gars de la ville était séminariste. Il a deux tantes religieuses, deux oncles prêtres et un cousin prêtre. Voilà. Rien que dans son cercle, ça va. Hein. Voilà. C'est un curé d'art, il connaît, enfin il a vu. Pareil, c'est pas quelque chose qu'on peut deviner, hein, c'est vraiment donné. De façon un peu extraordinaire, toc, ça fait un don. En disant, ben voilà, ce que Dieu veut pour votre famille, c'est ça. Il n'a pas dit à cette dame, rapproche-toi. Hein. Il dit, voilà, il y aura des saints dans votre famille, mais c'est dans la généalogie, c'est dans la descendance. Il y en aura plein. C'est des bons en plus. Hein, c'est... Voilà. C'est très possible qu'il soit ça. En tout cas, vu par nous, de l'extérieur, on dit oui, c'est quand même des gens assez exceptionnels. Don de conseil. Le don de conseil est lié à l'activité de notre intelligence en ce qu'il nous révèle la pertinence de nos décisions d'agir par rapport à l'effet éternel escompté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire... Le don de conseil, c'est, enfin, je dois comprendre les choses et je vois que c'est bien. C'est ça qu'il faut. Il perfectionne la vertu de prudence par laquelle nous agissons en fonction de notre bonheur éternel. Le don agit pour permettre des discernements ardus en la matière. Par exemple, dois-je parler ou faire un geste éloquent ? Que cela concerne mon salut, c'est le baptême, ou le témoignage public rendu au Christ. La confirmation. Voilà. Parfois, on va vous poser des questions pièges ou ceci, cela. Qu'est-ce que je dois faire ? Si je réponds, ça va pas finir, on va se moquer de moi, ceci, cela. Voilà. Des fois, il n'y a rien à dire, si ce n'est hausser les épaules et crétin. C'est tout. Voilà. Et c'est peut-être effectivement ça qui va gagner la partie. Ou alors, ben, est-ce qu'effectivement, je dois faire un raisonnement très rigoureux, dire ceci, dire cela. Des fois, c'est prendre les choses avec humour, des fois, c'est. Voilà. Pour moi, il n'y a plus personne. Qu'est-ce que je dois faire ou pour mon salut ou pour le témoignage par rapport aux autres. La prudence, elle va vous dire la juste mesure des choses. Pareil, ça te, voyez, ça se rapproche de la tempérance, de dire voilà, c'est par quel usage je dois faire du monde, c'est comment est-ce que moi je dois agir. C'est plus par rapport aux choses extérieures, c'est ma décision, ma position, qu'est-ce que je fais. Ça, c'est la prudence. Toujours pareil, le don, c'est pour résoudre des cas, si on peut dire, plus difficiles que la moyenne. Illustration, ce que j'ai essayé de trouver. Jésus s'invite à manger chez Zachée. Sans lui faire de reproche, sans le désigner comme indigne de lui, Jésus touche le cœur de Zachée et obtient sa conversion au cours du repas. Voilà. Vous vous rappelez un épisode, il passe, il s'arrête sous l'arbre et il dit à toi, tu descends, il faut que je mange chez toi. Il aurait pu dire 25 000 autres choses, il aurait pu faire 36 autres gestes. Il s'est dit, voilà, lui c'est comme ça que je vais l'attraper. Je peux lui faire des reproches, je peux, lui régler son compte devant tout le monde. Dis donc, toi, Zachée, je sais que tu voles, tu prends 4 fois plus, tu triches avec les impôts. Il n'a pas dit ça. Peut-être que c'est la honte publique qui aurait changé le cœur de Zachée. Peut-être pas. Là, visiblement, c'est pas ça. C'est pas la méthode en force. C'est tiens, je m'invite chez toi. Alors que normalement, un juif pieux, il mange pas chez les pécheurs, il va pas se salir. Pas de contact avec les gens pas bien. Jésus, l'autre. Et puis c'est ça qui touche le cœur de Zachée. C'est que voilà, au cours du repas, ils discutent. Et puis petit à petit, le cœur est touché. Donc voilà, petite trait de génie qu'on trouve chez Jésus, qu'on va trouver chez d'autres saints, pour savoir comment toucher la personne et la remettre dans le chemin de Dieu. Autre, donc deuxième feuille, autre exemple sur du don de conseil, mais chez les saints. Saint Jean Bosco, enfant, écoutait le serment du curé à la messe le dimanche matin et l'après-midi faisait des acrobaties, des tours de saltimbanque, donc des tours de cirque aujourd'hui, pour attirer du monde autour de lui. À la fin du spectacle, en guise de récompense, il leur demandait d'écouter le serment du matin qu'il leur répétait et faisait prier le chapelet. Voilà. Comment est-ce que je vais faire pour trouver la bonne méthode en vue de témoigner publiquement du Christ? Qu'est-ce qui va remporter le morceau? Qu'est-ce qui va gagner le contrat? Voilà. Saint Jean Bosco, il disait, ben moi c'est bien, il avait beaucoup grandi justement avec les gens du cirque, etc. Il savait jongler, faire des acrobaties, marcher sur une corde, tout ce qu'on veut. Et il s'est dit, ça attire du monde. Le but, c'est pas tellement après de faire la quête et puis de dire, ça y est, je peux m'acheter des carambars, c'est de ramener les gens à Dieu. Donc il s'est dit, je vais d'abord attirer les gens, ils vont être réunis autour de moi et puis avoir une bonne opinion de moi, puisque je les ai fait rire, je les ai amusés, je fais des trucs sympas, hop, l'oreille est attentive. Après, je pourrais leur dire, moi je fais pas la quête pour me faire payer mes spectacles, je vous demande d'écouter ce que le prêtre a dit ce matin à la messe où vous étiez pas parce que vous faisiez du vélo, et puis on va prier ensemble. Voilà. Petit truc génial, si on peut dire, pour comprendre comment toucher telle ou telle catégorie de personnes. Autre chose. Ça, c'est une petite histoire que vous retiendrez forcément. Un jour en Afrique, un missionnaire blanc constate qu'un sorcier noir est écouté de beaucoup de villageois parce qu'il fait un miracle, entre guillemets. Il retire son œil et il le replace. Alors tous les gens disent « Ah, ça c'est un grand sorcier, il fait des trucs qu'on n'a encore jamais vu. » Et puis en fait, il a eu tout simplement un œil de verre. C'est-à-dire qu'on lui a retiré son œil, peut-être parce qu'il a été blessé ou je sais pas quoi. Et puis pour pas que ça fasse un creux avec la paupière, on met un œil de verre. C'est-à-dire comme pour les nounours ou les poupées, en verre, une petite boule, avec on dessine une pupille, de même couleur que l'autre pour que ça ne se voit pas trop, et puis on met ça derrière la paupière. Comme ça, la paupière elle est toujours dans le même point. Voilà. La paupière elle marche toujours, pour fermer les yeux, sauf qu'on ne voit rien, il n'y a pas d'œil. Mais de l'extérieur, on ne voit pas trop. Enfin, ça peut se deviner, parce que le verre, ça reflète la lumière du soleil. Donc quand il y a de la lumière, parfois on voit qu'il y a un œil qui brille et pas l'autre. Ben, oui, forcément, un œil c'est du verre. Quoi. Donc c'est juste ça, donc ça peut se retirer, se remettre. C'est pas très ragoûtant, mais en tout cas ça marche. Et du coup, le missionnaire, bien avisé, c'est là où il dit, tiens, un petit truc génial pour ramener les autres à la vraie foi. Qu'est-ce que je vais faire? Le missionnaire dit qu'il peut faire mieux parce qu'il possède la vraie foi. Il dit, pour retirer son œil, c'est trop fastoche. Moi je vais faire mieux. Alors les gens regardent un peu, il retire ses dents, il les replace. Et là les gens ils disent, ah ouais, c'est quand même beaucoup plus fort que de retirer un œil, quoi. Mais il retire tout, quoi. En fait, il avait un dentier. Alors, il s'est dit, tata, toi, tu arnaques les gens avec ton œil. Tu vas voir. On pourrait dire, oui, ça aussi, c'est de l'arnaque. Oui, mais c'est drôle. Enfin, voilà. Il a pigé le truc pour dire, ces gens-là, ils sont sensibles à ça, moi, je vais les ramener. Et puis, une fois qu'ils ont vu ça, pareil, après, ils écoutent. Hein. Ils n'hésitent plus. Ils disent, voilà, ça, c'est. Voilà. Les missionnaires blancs, beaucoup plus forts que le petit sorcier noir. Hein. Rien à voir. Voilà. Donc, il va après impressionner, écouta désormais, le sorcier n'osait plus s'opposer à lui. Parce que le sorcier lui-même, il a dit, non. Comment il fait ça? Parce que lui, il savait, hein, pouvait retirer son œil. Dans il n'avait jamais vu, quoi. Donc, il s'est dit, oh, très, très fort. Donc ça, voilà, besoin de conseils, un petit truc génial pour résoudre un cas difficile. Et savoir comment ramener les autres vers Dieu. Voilà. La crainte. Craindre, en latin comme en grec, est le même verbe que respecter. C'est ça qui n'est pas très facile en français, parce qu'on n'a pas forcément choisi le bon mot pour traduire. Cela peut se comprendre dans le sens. Respecter, c'est craindre de déplaire. Si je respecte quelqu'un, je n'ai pas envie de lui faire de la peine, du mal, qu'il soit déçu, etc. On a appelé cette crainte la crainte filiale, c'est-à-dire comme un fils. Les bons enfants n'ont pas envie de déplaire à leurs parents. La pire chose que maman nous disait, c'est « j'aurais honte de toi si tu faisais ça ou ça. Si j'apprends que tu traînes avec cela, j'aurais honte. » Et ça, c'était la pire. « Alors, vas-y, je te fous une trempe. » Bon, bah c'est bon, une trempe, c'est bien, on se prend une claque, ça y est, c'est fait. Ma mère a honte de moi. Je suis paralysé, quoi. Je vais sûrement pas le faire. Honnêtement, moi, c'était la phrase qui. Alors, elle ne l'utilisait pas trop souvent quand même, mais pour les choses importantes, j'espère que c'est pas toi, ça me fait honte. Et des fois, c'est dit, moi. Hein, c'est des trucs, hein. Voilà, terrorisé. C'est pas possible de déplaire, enfin, de faire honte à ses parents, c'est la punition suprême. Donc, la crainte filiale, c'est le respect de ses parents. C'est pas. J'ai peur de me prendre une carte, ça, j'ai pas peur. Mais j'ai peur de déplaire. Parce que ça, franchement, ça se fait pas. Mes parents même, c'est dégoûtant de tromper leur amour, voilà. Ça passe pas. Donc c'est un peu ça le terme de crainte aussi par rapport à Dieu. Et on oppose la crainte servile, du servus, en latin c'est l'esclave, la crainte des esclaves. L'esclave, il a peur de quoi? Des coups de fouet, des coups de bâton. Que son maître lui dise j'ai honte de toi, ça il a rien à cirer. Par contre, tu lui dis tu vas te prendre une trempe, ouh là 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 là. Viens un peu là que je te redresse. Ça, l'esclave, il veut pas. Lui, ce dont il a peur, c'est les coups. De déplaire, il s'en fiche. Donc, par rapport à Dieu, c'est la crainte filiale, forcément, qu'il faut avoir. Et dans la Bible, il y a les deux choses qui sont dites. À la fois, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ça, c'est la crainte filiale. Avoir le respect de Dieu, c'est le début du bon chemin. Et puis, l'amour bannit la crainte. Donc d'un côté, il faut avoir la crainte, puis de l'autre côté, l'amour bannit la crainte, il ne faut pas avoir la crainte, il faut chasser la crainte. Ce n'est pas la même crainte. La crainte de Dieu, le commencement de la sagesse, c'est la crainte filiale, le respect par rapport à Dieu. L'amour bannit la crainte, c'est le châtiment. Quand j'aime Dieu, je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas peur de me prendre des claques. Parce que je sais qu'il m'aime. Donc voilà, il n'y a pas de raison qu'il tape dessus sans... Voilà. Parce que il a une mauvaise humeur ce matin, ou je ne sais pas quoi. Il s'agit donc du motif de nos actions. Qu'est-ce qui fait que j'agis? Est-ce que c'est par amour, ou est-ce que c'est par peur, ou est-ce que c'est... La crainte est liée à la vertu de charité, qui est aussi le motif de nos actions les meilleures. Quand je fais le bien, c'est par amour de Dieu, du prochain, de moi-même. Nous pouvons craindre de déplaire à Dieu par nos péchés, c'est le baptême, enfin, c'est les dons du Saint-Esprit qui sont donnés au baptême, hein, qui sont donnés pour notre propre sainteté personnelle, mes péchés, ou par manque de courage face aux autres. Confirmation. Jésus, il dit, hein, celui qui rougira de moi devant les hommes, je rougirai de lui devant mon Père et les anges. Attention les gars, hein, faut pas avoir peur d'être chrétien. Bah, de temps en temps, si. Des fois, voilà, il y a des petites choses à faire. Voilà, la vertu de piété, d'amour de Dieu, c'est que, voilà, j'ai pas peur de rendre témoignage à Dieu. Et puis de temps en temps, la barre est tellement haut que vraiment, faut être un héros. Pas grave, potion magique, et on passe la barre. Toujours pareil. Illustration. Jésus au jardin des Oliviers fait cette prière. Donc il sait qu'il va mourir. C'est pas la vie de tous les jours, hein. C'est pas le cas facile. Père, s'il est possible, que ce calice de douleur s'éloigne de moi. Pas envie de mourir, pas envie de souffrir. Mais cependant, qu'il soit fait selon ta volonté, non selon la mienne.
Jésus ne veut pas déplaire à son Père dans le témoignage suprême de l'amour. Donner sa vie pour ceux qu'on aime.
C'est pas, il n'a pas peur des coups, peur des représailles, peur que son père lui dise bon, t'es plus mon fils, casse-toi, plus de voir, tu me fais trop honte. Non, non, peur de lui déplaire. C'est pas peur de la. Enfin, voilà, c'est pas peur du châtiment, c'est peur de déplaire.
Pour un acte difficile qui est accepter de mourir. Le bon larron sur la croix. C'est un acte héroïque que de reprendre publiquement le mauvais larron qui se moque de Jésus. Le bon larron lui dit clairement. Tu n'as même pas la crainte de Dieu. Et il ajoute à l'adresse de Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. On voit le bon larron respecter la personne de Jésus publiquement. C'est une manifestation du don de crainte qui lui fait faire un acte bien difficile pour lui, qu'il n'a pas vécu dans le bien. Il lui aura fallu seulement qu'il ouvre son cœur à l'action de Dieu. On pourrait dire un acte pour sa propre sainteté, c'est le baptême. Oui, mais il le dit publiquement, il le dit devant tout le monde. Jésus, il est quand même cloué sur la croix et pas loin de mourir, il a un disciple, sa mère, deux femmes qui traînent au pied de la croix, tous les autres l'injurient, se moquent de lui, les Romains sont en train de jouer en attendant que ça se passe, et puis de tirer au sort son vêtement, enfin voilà, tout va bien. Hein. Et puis il lui dit, souviens-toi quand tu viendras dans ton royaume. Il faut y croire, hein. La tête du royaume de Dieu, là. Non, non, c'est toi qui va régner, c'est toi qui va gagner. Voilà. Et il le dit devant tout le monde, le grand prêtre. Il n'a pas peur de dire les choses et de porter ce témoignage. Saint Paul écrit aux Corinthiens, malheur à moi si je n'évangélise pas. Voilà. Et il n'annonce pas de châtiment, je suis fouetté, voilà. C'est juste, malheur à moi, je serais malheureux si je n'évangélise pas. Je ne vais pas pouvoir vivre sans évangéliser, c'est trop dur. Don de crainte. Don de piété. Le don de piété est lié à notre relation de prière envers Dieu. Pius, toujours en latin, veut dire bon ou gentil. Donc la piété suppose un certain sentiment de douceur dans notre prière. Et Pius, pas simplement celui qui prie, mais celui qui pas celui qui passe des heures en prière, mais celui qui a une douceur, une tendresse dans son rapport avec Dieu. Il faut être gentil avec Dieu. Un élan du cœur. La vertu de religion, qui est une partie de la justice, c'est-à-dire rendre à Dieu ce qui est à Dieu. La vertu de religion nous fait prier Dieu en ayant conscience qu'il est Créateur et Seigneur. Le don de piété vient nous aider à prier en ayant conscience que Dieu est notre Père, baptême, et en nous communiquant aux autres, en le communiquant aux autres, parce qu'il se transpirera de nous. Voilà confirmation. Illustration. Prière de Jésus avant la réanimation de Lazare. Qu'est-ce qu'il dit publiquement? Il aurait pu le dire dans ta barbe, il le dit devant tout le monde. Père, je sais bien que tu m'exauces toujours. Si je te parle, c'est pour eux, afin qu'en m'entendant, ils croient. Si je fais ma prière publiquement, c'est pas parce que je doute ou que. Voilà, je sais que tu veux m'exaucer. Il y a cette douceur entre le Père et le Fils, entre le Fils et le Père. Je sais bien que tu m'exauces toujours, je sais bien que tu m'aimes, je sais que tu feras ce que je te demande. Maintenant, si je le dis publiquement, c'est pour eux, pour qu'eux, ils entendent, ils se rendent bien compte. Que ce que je vais dire aussi, ça vient de toi. Donc voilà, c'est de communiquer un peu aux autres, c'est même attitude par rapport à Dieu. Le curé d'Ars, qui n'avait pas beaucoup de lettres, c'était pas un grand savant, faisait des sermons qui touchaient les cœurs. Alors que honnêtement, c'était pas de la littérature. Il passait des heures en prière, des heures à ramener les pécheurs à la grâce par la confession, et ses paroles touchaient les cœurs. Il y avait une intimité avec Dieu qui transparaissait. Notamment, son sermon sur le Saint-Sacrement est resté célèbre, pointant le doigt vers le tabernacle, le curé d'Ars disait « Il est là, il est là ». Enfin, pas des grandes phrases. Hein. Et les gens comprenaient ce que c'est que la présence réelle. Parce qu'il le dit avec foi, il le dit avec, je crois comment dire, douceur. Moi, je ne vous le dis pas avec le bon ton. Voilà. Sinon, ça arrive. Voilà. Il est là, complètement tombé à genoux, en lévitation. Lui, il a fait ce sermon-là. Hein. C'est pas compliqué de dire ça. Hein. Il est là, il est là. Les gens ont compris. Donc, voilà. La façon de dire la réalité de Jésus au tabernacle, dit par lui, ça passe. Parce que, il le vit, puis il a cette petite aide en plus pour faire comprendre ça, qui est peut-être la chose la plus difficile à comprendre dans notre prière, la réalité de Jésus dans l'Eucharistie. Don de piété. Après, don de force. Le don de force vient nous aider à poser des actes particuliers dans des circonstances particulières, pour supporter tranquillement les dangers et pour accomplir des actions héroïques en relation avec Dieu dans le secret de la vie quotidienne, c'est le baptême, ou au regard des autres avec une portée de témoignage apostolique, c'est la confirmation. Et le don de force, c'est peut-être le don le plus facile à repérer dans toutes les dans la vie des saints et autres. Illustration. Durant toute sa passion, Jésus n'ouvre pas la bouche pour se plaindre, alors que je peux vous dire qu'il s'en prend plein la tête. Quand il parle, c'est pour intercéder pour ses bourreaux et faire du bien à ses disciples. Eh bien, voilà. Nous, on s'écorche, ah, il y a du mal, ça va pas. On se prend une insulte, on répond. Jésus, il s'en est pris quand même bien ce qu'il faut. Hein. D'abord, bastonné par des légionnaires romains, c'est pas ce qu'il y a de plus doux. Hein. Moqué, amené, jugé par le grand prêtre, vendu aux Romains par le grand prêtre, et la foule, enfin voilà. Et puis, non, c'est pas notre roi, lui, hein, prof, ah, t'es le roi des Juifs, allez, tiens, prends ta couronne, ton sceptre, ton tabac, ton manteau, voilà. Cracher la figure, arracher la barbe, enfin, vous pouvez lire le détail de la passion. Nous, on crie bobo beaucoup plus vite, hein. Et puis, nous, on répond à l'insulte. Oui, à rien. Faut y aller, hein. Faut avoir un petit supplément, si on peut dire, pour avoir la force de caractère d'encaisser tout ça. La passion, c'est vraiment le sommet de ce qui dépasse nos pauvres forces, hein, puis, une grande force. Saint Pierre, Saint Jean, jugé par le Sanhédrin, après la résurrection, hein, pour avoir fait un miracle et prêché en faveur de Jésus dans le temple. Ça commence aussi à faire beaucoup. Et les pauvres gens du temple commencent à en avoir marre des chrétiens. Donc ils sont jugés devant le Sanhédrin, le grand conseil. C'est le même conseil qu'a jugé Jésus. Hein. Il n'y a pas 3 mois, Jésus est passé devant le Sanhédrin pour être condamné à mort. Hein. Là, on ramène Saint-Pierre, Saint-Jean devant le Sanhédrin. Hop, les mêmes. Et ils tiennent tête. Ils répondent au grand prêtre. C'était comme si vous commenciez à dire au pape, ouais, enfin, t'es gentil, mais enfin, je t'explique. Faut oser. Hein. Et à peine fouetté, parce que pareil, hein, le grand prêtre, il dit, bon, allez, c'est bon, maintenant... Alors, chez les Juifs, c'est 39 coups de fouet. Donc, en avant, pour 39 coups de fouet, déjà, ça devrait les calmer. On n'entendra plus parler. Là, ils vont comprendre que si ils recommencent, c'est encore 39. Donc, ils leur donnent 39 coups de fouet, ils les lâchent le matin, ils les retrouvent l'après-midi dans le temple. Ils font quoi? Ce qu'ils faisaient juste avant le procès. Ils font du caté. Et faut y aller, hein. Et ils retournent dans le temple et ils prêchent l'évangile de Jésus-Christ. Dans de force. Même pas mal. 39 coups de fouet, le dos labouré. Très bien, on recommence. On continue. On persévère. On va au-delà de ce que normalement, on ne fait pas, hein. Normalement, déjà, on va soigner pendant un mois, puis après, on verra s'il n'y a peut-être pas une autre façon de faire, pour éviter les coups de fouet, tout en essayant de témoigner quand même. Eux, ça ne fait pas un pli, ils ont le dos en sang, ils retournent. Ou alors, Sainte Blandine, qui était la plus jeune et la plus peureuse de tous les chrétiens emprisonnés à Lyon. Tous ses compagnons de cellule pensaient qu'elle ferait honte au nom de chrétien en abjurant publiquement sa foi une fois mise en face des bêtes sauvages. C'était une pétocharde, la petite Blandine. Il n'en fut rien, elle se tint fièrement et tranquillement et les bêtes féroces vinrent se coucher devant elle. Elle fut ensuite livrée au corps d'un taureau furieux qui la piétina. C'est quand même. Voilà. Elle était là pour être martyrisée, elle fallait quand même passer aux choses sérieuses. Mais vous voyez, don de force, alors qu'elle avait peur, elle arrive dans l'arène, elle est vraiment. Tranquille, forte. Voilà. Et puis, les lions viendront se coucher devant elle. La plus forte, le roi des animaux, c'est Sainte Blandine. Hein. Don de force pour une occasion particulière. Ou pareil, hein, dans le même état d'esprit, il y a Sainte Jeanne d'Arc, qui, vous savez comment elle est morte? Elle est morte comment? Brûlée sur un bûcher. La veille, dans sa prison, on lui avait annoncé la condamnation, elle disait, les gens attendaient dans le couloir, elle pleurait, elle disait, pas le feu, pas le feu. Je vous en supplie, tuez-moi, mais comme vous voulez me couper en rondelles, mais pas le feu, je ne veux pas le feu. Elle avait peur. Le feu, ça fait très mal. Je ne veux pas. Elle arrive au bûcher, elle dit pas un mot, elle monte dessus. Elle embrasse la croix et en avant. Et elle dit Jésus, 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 Jésus. Jusqu'à ce qu'elle meure. Tant de force. Humainement, tout sauf le feu, renforcé par Dieu, pas de problème, on monte sur le bûcher. D'accord? Petite, faites toujours pareil. Les deux tableaux. C'est juste histoire de le tableau, c'est pas. À prendre par cœur, mais c'est quand même un papier à ne pas perdre. Peut-être que dans quelques années, vous serez content de le retrouver. Donc, je vous ai mis les quatre, donc, qui ont leur siège dans l'intelligence, les trois qui ont leur siège dans la volonté, les dons, intelligence, sagesse, les vertus auxquelles ils se rapportent, ça peut parfois vous donner un peu une idée un peu plus claire de ce que c'est. Et puis comme les dons sont là pour fortifier les vertus, pour les actions héroïques, il faut savoir à peu près quelle est la vertu qui, à laquelle ça se rattache. Oui, après, vous savez qu'il y a trois vertus théologales, quatre vertus morales qu'on appelle cardinales, les quatre grands axes des vertus. Donc ça fait foi, espérance, charité, prudence, tempérance, justice et force. Donc comme il y a sept dons, et puis trois théologales, quatre cardinales, ça fait sept, on a souvent essayé de faire une correspondance entre ça et ça. Et puis de temps en temps, c'est pas si clair que ça. C'est-à-dire pour la science, vous voyez, j'ai mis ça peut se rattacher à la foi, donc la foi elle est citée deux fois, qu'elle veut dire, ou alors à la tempérance. Si on veut à tout prix caler les quatre justices, les quatre vertus cardinales, c'est plutôt là. C'est pas grave. C'est juste. Parce que des vertus, il y a trois théologales, quatre cardinales, et puis en dessous des quatre cardinales, les grands chefs de file, il y en a plein. J'ai dit par exemple la piété, vertu qu'elle se rapporte, la justice, entre parenthèses, la religion. Plus exactement, la piété se rapporte à la religion. La religion, c'est une partie de la justice. La justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. La religion, c'est rendre à Dieu ce qui lui est dû. Après, il y a aussi la justice, je ne sais pas comment dire, on dit sociale par rapport aux gens. Il faut rendre à l'État ce qui lui est dû. On paye les impôts, on fait les services militaires, quand on le faisait. Et puis, on rend aux autres ce qui leur est dû. J'achète mon pain, voilà. Ça, c'est de la justice. Je ne pars pas en volant, en courant. Donc, la piété, ça, c'est la justice en général, mais plus exactement la religion. Donc voilà, il y a des petites vertus qui se cachent en dessous. Et après, Saint Grégoire le Grand, là, le pape, explique voilà qu'est-ce que ça vient combattre en nous, la stupidité, l'ignorance, la sottise, la précipitation, l'orgueil, la dureté, la crainte mondaine, la crainte des autres, du monde. Et puis le dernier tableau, pareil, c'est des petites concordances qu'on essaie de faire entre les sept dons du Saint-Esprit, il y en a sept, les béatitudes. Il y en a 8, donc on essaye quand même de faire rentrer au moins 7 béatitudes sur 8 en correspondance avec les dons du Saint-Esprit, parce que les béatitudes, c'est la façon d'être chrétien, qui dépasse un petit peu l'ordinaire. C'est pas normal de dire, voilà, il n'y a pas heureux les persécutés, justement. Mais voilà, c'est pas normal de dire heureux êtes-vous si on vous persécute. Faut arrêter de dire des bêtises, quoi. Non, j'ai pas envie d'être persécuté, moi. Ça dépasse un petit peu la normale. Donc, on essaie de mettre les béatitudes en lien avec les dons qui sont là pour dépasser la normale. Et puis, les demandes du Notre Père. Il y a 7 demandes dans le Notre Père. Donc, pareil, on s'est amusé à dire, il y a 7. Donc, forcément, s'il y a 7, on va pouvoir créer des liens. Donc, il y a les 7 demandes du Notre Père qui sont mises aussi en parallèle. J'ai envie de vous dire que ça c'est pas de la science exacte. C'est juste essayer de faire des liens entre ça et ça. Tiens, peut-être que ça, ça ressemble à ça et ça ressemble à ça, parce qu'il y a le même chiffre. Ça s'arrête là, mais c'est pas forcément faux pour autant. Mais voilà. C'est pas. C'est une façon aussi, voilà, qu'on a d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière les dons du Saint-Esprit. Et puis après, j'ai mis tout en bas leur ordre logique dans la vie spirituelle sont dons Guéranger. Alors dons Guéranger, c'est ce que j'ai donné aux deux grands là en plus. C'est la crainte, la piété, la science, la force, le conseil, l'intelligence, la sagesse. C'est-à-dire, dans ma vie avec Dieu, ça, on a vu, les dons, on les a ordonnés de façon très intellectuelle. Alors, il y a d'abord ce qui concerne l'intelligence, ensuite ce qui concerne la volonté, parce qu'il faut réfléchir avant d'agir, etc. N'empêche que dans votre vie, c'est pas forcément dans ce sens-là, vous n'avez pas commencé par la sagesse, c'est goûter Dieu, l'extase, on commence rarement par là. Donc, Don Guéranger qui est moine, il a dit, oui, mais dans la vie spirituelle, dans notre vie avec Dieu, la crainte. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. On commence par la crainte. La piété, la douceur envers Dieu, etc. La science, la force, le conseil, l'intelligence, et la sagesse à la fin, où là c'est l'extase, on goûte Dieu. Voilà. Goûter Dieu, c'est plutôt du domaine du saint accompli. Voilà. Donc, c'est un autre ordre. Vous les apprenez dans l'ordre que vous voulez. Ce qui est bien, c'est de connaître le fait. Et puis effectivement, souvent, je vous ai dit, on prie le Saint-Esprit un peu de façon globale. Saint-Esprit, venez, agissez en moi. Après, on peut s'amuser, effectivement, à prendre la prière qui détaille, venez, esprit de piété, de sagesse, de ceci, de cela, pour se rappeler un petit peu
quels sont les effets que le Saint-Esprit peut avoir en nous. Et puis, voilà, là, on se casse la tête pour essayer de distinguer ceci de cela. Dans la Bible, les 7 mots sont donnés pour les dons du Saint-Esprit. Et puis, moi j'ai envie de dire, ce que j'ai dit la dernière fois, quand on prie, on dit « Seigneur, donnez-moi tout et j'en ferai bon usage. Voilà. Donnez-moi les 7 dons, on verra. » Pour essayer de comprendre l'action du Saint-Esprit, ben voilà, on détaille et puis j'essaie de vous trouver des exemples à peu près pertinents pour vous faire comprendre. Mais voilà, apprenez les 7 dons du Saint-Esprit, ça fait pas de mal, c'est dans la Bible. Si Dieu nous l'a dit dans la Bible, il y a peut-être une raison, c'est bien qu'on les connaisse. Et puis après, si vous avez du mal à faire la différence entre la crainte et la piété, c'est pas dramatique. Si vous faites la différence, c'est encore mieux. Sinon, c'est pas dramatique. Et dans votre vie de tous les jours, de toute façon, voilà, c'est prier le Saint-Esprit, s'ouvrir au Saint-Esprit en comprenant qu'au baptême, en vertu du sacrement de baptême, il est là pour me perfectionner. En vertu du sacrement de confirmation, il est là pour m'aider à avoir un témoignage face aux autres. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Parfait, très bien.